Radio Classique, les spécialistes.
7h39 sur Radio Classique, les spécialistes Emmanuel, Dimitri et Bruno, puisque nous sommes mercredi, nous allons parler cinéma dans un instant. On va commencer avec vous, Emmanuel Faux et l'International. Le compte à rebours est lancé. Vendredi soir, nous le savons, à minuit, heure de Paris, 23h à Londres, eh bien, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne, qui comptera alors 27 membres. L'occasion de revenir avec vous sur d'autres départs assez fracassants qui ont marqué l'histoire.
Oui, Renaud, et le départ le plus mémorable d'une grande organisation d'après-guerre, c'est bien sûr le retrait de la France de l'OTAN, dont elle est pourtant l'un des pays fondateurs. Cette décision, le général de Gaulle l'a prise le 7 mars 1966, en écrivant au président américain Lyndon Johnson, pour lui indiquer que la France voulait recouvrer sa pleine souveraineté militaire au sol comme dans le ciel. En fait, ce départ, il trouve son origine dès 1958, dans un désaccord entre De Gaulle et ses homologues américains et britanniques. À l'époque, le président français réclame une direction de l'OTAN à trois, mais Londres et Washington lui opposent une fin de non-recevoir polie mais ferme. Il faudra attendre plus de 40 ans pour que la France réintègre l'OTAN, vous en souvenez, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy en 2007, mais rien n'est simple entre Paris et l'Organisation Atlantique, puisque, vous le savez, il y a quelques mois, l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, a carrément déclaré que l'OTAN était à ses yeux en état de mort cérébrale. Alors, autre départ retentissant, celui des États-Unis, de l'UNESCO, la branche éducation et culture de l'ONU, dont le siège d'ailleurs est à Paris. Washington avait claqué la porte une première fois en 1984, avant d'y revenir 20 ans plus tard. En 2011, les Américains ont suspendu leur contribution financière à l'UNESCO avant d'en partir définitivement l'an dernier, suivi par Israël. Décision de Donald Trump qui dénonce une mauvaise gestion de l'organisation et qui trouve là aussi une bonne occasion de tourner le dos à l'un des symboles mondiaux du multilatéralisme.
Alors voilà pour ce point d'histoire avec le professeur Faux. Reparlons du Brexit qui est la grande affaire du moment avec cette question qui va forcément ressurgir. Quel est l'avenir de l'Écosse?
Très bonne question, mon cher Renaud. Alors pour l'heure, l'Écosse fait pleinement partie du Royaume-Uni, évidemment, tout comme l'Irlande du Nord. Et donc le 1er février, samedi matin, des villes comme Glasgow, Édimbourg ou Aberdeen ne feront plus partie du territoire européen. Oui, mais le mais, c'est que lors du référendum sur le Brexit en juin 2016, une nette majorité des Écossais, 62%, avaient voté pour le Remain, rester dans l'Union européenne. Donc le Brexit va s'imposer à une population qui n'en veut pas, mais les Écossais ayant voté contre l'indépendance il y a 6 ans, il est logique pour l'instant qu'il soit solidaire des décisions prises par Londres. La nouveauté, c'est que la mise en œuvre du Brexit, et surtout si elle a des conséquences économiques négatives, va peut-être faire basculer une partie des Écossais en faveur de l'indépendance. C'est en tout cas ce que pense et ce que souhaite évidemment la première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, qui réclame le feu vert de Londres pour la tenue d'un nouveau référendum. D'ailleurs, on entendait l'eurodéputé écossais tout à l'heure dans le journal d'Augustin Lefebvre. Pour l'instant, Boris Johnson refuse tout référendum. Tout auréolé qu'il est de le triomphe électoral qu'il a enregistré le mois dernier à Westminster. Mais si le Premier ministre britannique cède d'ici 1 ou 2 ans, et si l'indépendance l'emporte, alors l'Écosse pourra imaginer à nouveau son avenir dans l'Europe.
Merci Emmanuel. On va quitter Édimbourg, on va descendre un petit peu plus au sud, à Londres avec vous Dimitri. Londres qui a ouvert son réseau aux Chinois Huawei. Doit-on, c'était hier, doit-on suivre le même chemin en France, Dimitri?
Voilà, son réseau 5G, alors c'est un peu la grande affaire du moment, ça agace beaucoup souverainement les États-Unis qui, vous le savez, dans leur guerre globale, guerre technologique contre les Chinois, ont fait de Huawei un peu leur bouc émissaire. Et donc cette décision de Londres, ça consiste en quoi? C'est de dire, on autorise Huawei de manière limitée, c'est-à-dire pas dans les cœurs de réseau, mais dans toutes les infrastructures non stratégiques, notamment les antennes 5G. Alors la France doit prendre sa décision dans les jours qui viennent, on dit mi-février. Il se trouve que la Commission européenne doit rendre ses recommandations demain. Donc Huawei ou pas Huawei, c'est vraiment le sujet du moment, alors que 2020 doit être l'année de la 5G. Et donc pour la France, c'est un vrai casse-tête, parce que nous voilà littéralement pris entre plusieurs feux. D'abord, vous avez le feu de la sécurité, tout simplement, parce que reproche-t-on à Huawei? Eh bien, c'est d'ouvrir en fait son réseau à Pékin afin de permettre de l'espionnage. La grande angoisse, c'est que si on installe du Huawei, notamment dans les fameux cœurs de réseau, demain, il se peut que en Chine, Huawei possède une sorte de bouton permettant d'éteindre complètement un réseau, le blackout, le scénario d'un blackout.
Donc une dépendance par rapport à Pékin.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire vous placez volontairement vous-même une mine au cœur de votre système en choisissant Huawei. Ça n'est pas prouvé. Et Huawei dit non, ça n'existe pas. Mais enfin, mieux vaut rester prudent. D'abord, il y a ça. Ensuite, il y a les États-Unis. Je vous l'ai expliqué. Il y a cette hostilité, évidemment, des États-Unis à l'égard de la Chine et donc de Huawei. Si l'on fait le choix de Huawei, de les autoriser en partie sur nos réseaux, il y a ce risque de rétorsion. Je rappelle quand même que les États-Unis souhaitent un accord commercial, qu'ils n'arrêtent pas depuis des mois de menacer de taxer l'automobile européenne. Les voilà qui se mettent à faire pression pour que les Européens autorisent le poulet chloré en Europe, sujet super sensible pour les Européens. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le risque, si vous interdisez Huawei, que les Chinois vous tombent dessus. Ils ont plein de manières de le faire. D'abord en taxant éventuellement des produits européens, en faisant traîner la signature de grands contrats. Vous savez que c'est toujours l'enjeu quand un chef d'État va en Chine. Vous avez aussi la possibilité du name and shame. En Chine, il suffit que les autorités désignent du doigt une entreprise d'un autre pays.
Et si je vous comprends bien, ils nous tiennent un petit peu quand même, les Chinois, là.
C'est pour ça qu'en fait, la France, elle a adopté une stratégie assez complexe de ruse, d'interdiction sans le dire. Ou plutôt, on n'interdit pas Huawei. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs télécoms, s'ils veulent demander de nouveaux équipements, ils doivent faire la demande à l'ANSSI, l'Agence Nationale des Systèmes de Sécurité Informatique, qui a 2 ou 3 mois pour répondre. Si l'ANSSI ne répond pas, cela vaut refus. Si vous voulez, c'est une manière d'interdire sans le dire, en tout cas d'essayer de décourager des opérateurs, dont certains ont déjà du Huawei dans leur réseau, c'est le cas de Bouygues ou de SFR. Donc finalement, quelle serait l'alternative? C'est qu'on ait nos propres solutions technologiques. Le problème, c'est que Nokia et Ericsson n'ont pas aujourd'hui le niveau de compétence d'un Huawei qui, de surcroît, est moins cher. Il faudrait finalement qu'on ait un plan européen pour développer des solutions souveraines. Ça voudrait dire que les États s'impliquent financièrement. Le problème, c'est que l'Europe n'aime pas trop ça. C'est ce qu'ont fait les Chinois, et visiblement, ça a quand même bien marché.
Merci beaucoup, Dimitri. Nous sommes mercredi, vous le savez, c'est le jour du cinéma avec Bruno Kras. On va parler de 3 films, Bruno. Mais d'abord, un petit hommage à une grande actrice, Catherine Ross, 80 ans aujourd'hui. On se souvient d'elle dans Butch Cassidy et Le Kid. On se souvient également d'elle dans Le Lauréat 1967, avec la bande-son signée Simon & Garfunkel. Parsley, sage, rosemary. Elle était magnifique dans le Lauréat, Catherine Ross.
Je croyais qu'elle était de ma génération, mais un peu plus vieille que moi quand même. Hein.
Mais oui, beaucoup plus. Largement. Bruno, on va rester dans les années 60 d'ailleurs avec un documentaire sur le photographe Gilles Caron qui s'appelle Histoire d'un regard. Je sais que ce film vous a beaucoup touché.
Écoutez, il est signé Mariana Otero, c'est une documentariste et c'est une superbe leçon de cinéma. Parce qu'on pourrait se dire, bon, Gilles Caron, reporter photographe à l'agence Kama, 1964-1970, il est mort à 30 ans sur une route près de Phnom Penh, il a disparu, voilà, enlevé sans doute par les Khmers Rouges. On pourrait dire, mais qui s'intéresse, voilà. Et ben, ça devient un film universel. C'est très, très beau. En fait, elle sort les planches contact, 100 000 photos, et elle essaie de retracer l'histoire d'une photo, l'histoire d'un regard. Par exemple, elle retrace l'histoire de la photo de Cote Bendit qui a un sourire narquois face à un CRS.
Dans la cour de la Sorbonne.
Ouais. Elle regarde comment ça s'est fait, comment... Gilles Caron, il était malin, il était toujours au bon endroit, au bon moment.
C'est ça, les grands photographes.
C'est ça, les grands photographes. Ouais. Sans jamais la ramener, sans être un va-t-en-guerre. Il a traversé la guerre des jour, la guerre du Vietnam, la Tchécoslovaquie, l'Irlande du Nord, tout. Et à chaque fois, il fait des photos magnifiques qu'il a prises avec beaucoup de courage et en fait des photos aussi très humaines, les regards, la peur, la souffrance, la douleur. On devient son ami, on respecte cet homme très droit, on est proche de lui, on n'oubliera jamais cette histoire, c'est magnifique, ça s'appelle l'histoire d'un regard. Il faut féliciter vraiment Mariana Otero.
Alors, autre film que vous avez un petit peu moins apprécié, Les Traducteurs, c'est un polar français avec Lambert.
Voilà. De Régis Roissard.
Hier soir, je crois.
Absolument, j'ai vu hier soir.
J'étais
hier soir tard. Régis Roissard. L'ambition est belle parce que moi, à chaque fois qu'un réalisateur s'empare d'un film de genre, c'est bien. Et c'est vrai que l'histoire est belle. Les traducteurs, imaginez un David Chincode. Là, ça s'appelle Dédalus. Le tome 3. 9 traducteurs de 9 pays différents sont enfermés dans un hôtel de château, un bunker de luxe. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas bouger, ils sont fermés deux mois, tout est spacieux, mais ils n'ont pas le droit de bouger parce qu'il ne faut surtout pas qu'une ligne de ce fameux 33
de possible.
Voilà. Et ils sont sous la surveillance d'un type qui est l'éditeur Lambert Wilson, qui est fou furieux. Et puis, au bout de quelques semaines, sur Internet, 10 pages sortent. Si 80 pages, si jamais une rançon de 10 millions de dollars, je ne sais quoi, n'est pas versée, 80 pages sortiront encore. Voilà. Qui est coupable, puisqu'ils sont surveillés de près? C'est l'histoire.
C'est
il y a
Lambert
plein de rebondissements.
Je suis sûr que c'est lui.
C'est qui?
C'est Lambert Wilson.
Mais ça, on vous le dira pas.
Mais c'est l'éditeur, c'est
alors,
sûr.
Ma seule réserve, c'est que trop de rebondissements tuent les rebondissements.
Ouais.
C'est un tout petit poil ganguineux à la fin, mais c'est quand même bien fait et on s'ennuie pas une seconde.
25 secondes pour nous parler de Jojo Rabbit. 6 nominations aux Oscars. C'est un film assez étonnant.
Un conte burlesque, une tragicomédie sur le nazisme. Un jeune enfant qui adhère aux jeunesses hitlériennes s'invente pendant la guerre en Allemagne son meilleur ami Hitler. C'est drôle, c'est fou. C'est dingue, c'est absurde, et c'est une super tragicomédie sur les préjugés, sur la tolérance, sur la guerre, sur l'absurdité de la guerre. Faut le faire quand même, c'est drôle. Hein. C'est super culotté, mais c'est super drôle. Voilà.
J'ai envie de voir
Ça s'appelle Jojo Rabbit, c'est de Taika Waititi, un réalisateur néo-zélandais.
Donc, on va voir Jojo Rabbit, on va voir le documentaire
Histoire d'un regard. On peut voir les trois.
Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on va voir les traducteurs, si
absolument.
Je comprends bien. Merci beaucoup, Bruno. Monsieur Cinéma sur Radio Classique, comme tous les mercredis. Merci Dimitri, merci Emmanuel. Il est 7h49 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible, signé Marc Bourreau, bien sûr, à tout de suite.